7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, place à l'instinct paternel. Les papas poules existent-ils vraiment? Au-delà de ces questions qui peuvent apparaître comme un peu provocantes, à l'heure des bouleversements de société, comment les hommes s'investissent auprès de leurs enfants? Pour jouer ou pour de vrai? Que veulent-ils leur transmettre aussi? Nous allons en discuter avec notre invitée. Bonjour Christine Castelin-Meunier.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS et vous publiez L'instinct paternel. Vous avez également suivi les débats sur la PMA pour toutes les femmes en France, c'est-à-dire la possibilité de concevoir un enfant sans père. Et bien sûr, ça a beaucoup réinterrogé la fonction paternelle. Et quant à vous, les voisins et les voisines, je vais vous demander quel père vous êtes ou quel père vous aimeriez être peut-être. Les voisines, vous avez aussi la parole pour nous parler du père de vos enfants. Absent, présent, est-il conforme à ce que vous attendez d'un papa? Quel père voulez-vous aussi pour vos enfants? Vous pouvez bien sûr nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro du WhatsApp pour nous laisser des messages. En fin d'émission, l'Afrique qui gagne, comme chaque lundi, portrait aujourd'hui de Mwala Muto, 24 ans, zambien. Il a monté une entreprise sociale dans la production et la transformation de noix de cajou. Et derrière, c'est toute la filière de l'anacarde qui retrouve une vie dans ce pays. À ne pas manquer cette rencontre au micro de Charlie Dupiau. Voilà, mais tout de suite, on revient à notre sujet, la paternité aujourd'hui.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Je vous lis quelques messages, Christine Castelin-Meunier, de nos auditeurs. Truman est à Brazzaville. Mon papa était pauvre, mais il était très proche de moi. Il pouvait pas entrer dans une boutique sans m'acheter un bonbon. Il me couvait, il passait des heures à jouer au foot avec moi. Et quand j'étais triste, il me consolait. Il m'apprenait aussi des mots qui lui semblaient importants. Et si une personne me battait en son absence, à son retour, il devenait rouge de colère. Cela virait souvent au combat de coq. Cela était très bénéfique pour moi d'avoir un papa poule. Voilà, ça c'est le papa protecteur dans toute sa splendeur.
Ça c'est génial, c'est-à-dire que l'enfant effectivement se sent entouré par une très grande bienveillance et une capacité à se situer aussi par rapport aux autres parce qu'il se sent vraiment reconnu, défendu par son papa.
Postule est aussi à... Alors, il est à Kinshasa, lui, en République démocratique du Congo, nous dit « Les papas poules existent chez nous, mais ils ne disent pas qu'ils sont des papas poules. »
Effectivement. C'est-à-dire... Alors, les papas poules, en fait...
On ne se revendique pas papa poule.
Voilà. Parce que, d'abord, le mot papa poule, je préfère dire les nouveaux pères. Et c'est pour ça que dans le livre « L'instinct paternel », j'ai mis en sous-titre « Plaidoyer en faveur des nouveaux pères ». Parce que papa poule, c'est une référence au féminin finalement, et qui est tout à fait inapproprié. Pourquoi?
Parce que comme si l'homme qui s'occupe bien de ses enfants en fait était une femme comme les autres, c'est ça?
Voilà, exactement. Alors que toute la question, c'est justement prendre sa place en tant que nouveau père et être reconnu en tant que tel, ce qui n'est pas simple dans la société actuelle. Pourquoi? Parce que l'impératif de la bonne mère est encore énorme.
Moussa au Tchad nous dit le papa poule, c'est le père que j'aurais voulu avoir, car le mien est décédé quand j'avais 3 ans, c'est un père qui doit aimer ses enfants, blaguer, partager les tâches ménagères avec ses enfants et sa femme. Stanislas à Kinshasa, moi je serais un papa qui s'occupe de ses enfants, je ferais de mon mieux pour les accompagner et écouter leurs rêves. Voilà, il se projette déjà dans la paternité. Écoutez aussi le message d'un futur papa en Afrique du Sud.
Coucou les voisins, coucou les voisines, moi c'est Don Diesel, Congolais résident à Cape Town en Afrique du Sud. Moi dans 6 mois je serai papa. Ma partenaire enceinte de 3 mois déjà. En ce qui me concerne, je ne sais pas ce que Dieu me réserve, mais j'aimerais être le meilleur des pères que possible quoi, pour ce petit enfant qui arrive. Être présent dans son éducation, lui donner à lui ce que mon père ne m'a pas donné à moi. Qu'il ne puisse pas passer par là où je suis passé, qu'il soit là présent dans son éducation. Car l'éducation, c'est la meilleure arme que le monde puisse avoir pour avancer. Et être un père génial, pas trop ringard, pas trop colérique, pas trop strict, un père qui laisse la liberté à un niveau à son enfant, la liberté de ses choix, et mettre tout ce qu'il faut à ce qu'un enfant puisse s'adapter en plein 21e siècle.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Eh bien, Don Diesel, déjà, on vous souhaite tout le bonheur du monde dans 3 mois, dans 6 mois. Dans 6 mois, vous allez être papa, et c'est formidable. Mais il résume aussi probablement quelques souffrances, Don Diesel.
Ah, bien sûr. Oui, vous avez raison. Donc, du coup, il se tourne un peu vers des attentes qui sont à la fois très belles et en même temps peut-être un peu utopiques, dans la mesure où c'est vrai qu'au quotidien, c'est un bouleversement profond. Cette arrivée de l'enfant dans le couple, bien sûr. Ce passage du conjugal au parental n'est pas simple. C'est fabuleux, mais en même temps, c'est pas simple. Je trouve que la société devrait accompagner beaucoup mieux ce passage. Et puis, il y a des bouleversements identitaires qui sont importants. Et il y a donc une...
Les hommes s'y attendent moins d'ailleurs que les femmes à
ces bouleversements. Oui, parce qu'on en parle beaucoup moins. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour qu'on accompagne beaucoup mieux les nouveaux pères, bien mieux, les nouveaux pères, et qu'on leur fasse véritablement une place. C'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'on est passé d'une paternité institutionnelle, c'est-à-dire très définie par la famille d'autrefois traditionnelle, à une paternité relationnelle, où c'est le père qui doit créer le lien et prendre sa place, et oser la prendre, alors même qu'on fait une place trop importante à la mère, et parfois ça occulte la fonction paternelle. Et ça, c'est dommage. Là où, bien sûr, tout ce que je dis, c'est dans un souci d'égalité, de partage entre les hommes et les femmes.
Et dans l'optique d'un couple hétérosexuel, vous travaillez sur les transformations du masculin et du féminin, Christine Castelin-Meunier. La loi de bioéthique qui étend la PMA à toutes les femmes a suscité, et vous avez suivi ces débats, de vrais débats de société, notamment sur l'absence du père, au-delà du don de sperme, la possibilité de concevoir un enfant sans père. Vous, comment vous avez vécu ces débats, justement?
Moi, je trouve que c'est très, très important d'un point de vue historique, parce que jusqu'à présent, on était dans une société qui se référait au patriarcat. Et là, je trouve qu'on sort du patriarcat dans le
sens... On en est quand même sorti déjà en 1970, hein, où le père n'est plus chef de famille.
C'est ça, le père n'est plus chef de famille, mais en même temps, il y a un partage de l'autorité parentale. Mais en même temps, la femme, souvent, était étonnée face aux réactions de l'homme quand il devenait père, et elle avait le sentiment qu'elle ne trouvait plus le même homme, et parfois il était violent, elle ne s'y attendait pas du tout. Et là, ce que je trouve très important, c'est que les femmes puissent choisir de faire des enfants comme elles l'entendent. Et parfois il y a des femmes qui auraient préféré ne pas faire des enfants avec des hommes parce que l'homme a été violent. Donc moi, j'ai ça en tête, que aujourd'hui, on va pouvoir aller vers une société où ce sera véritablement le choix, hein, et où les nouveaux pères prendront une dimension plus importante, et leur place sera beaucoup plus reconnue, parce que ce sera tout ça accompagné d'un changement de société vers plus d'égalité, de respect d'autrui.
Alors,
et d'estime de soi.
Justement, ces nouveaux pères dont vous parlez, on va écouter le témoignage d'un père, Emmanuel, 38 ans, il est papa d'une petite Clémentine, 6 mois. Alice Milo a rencontré ce papa poule ou ce nouveau père.
Oh, ma chérie. Tu veux goûter la purée? Alors aujourd'hui, c'est purée de petits pois poulets. Hop là. Allez, tu prends? Bah si, c'est bon.
On est mardi, il est 11h, et vous êtes chez vous avec votre petite fille de 6 mois, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai choisi de faire un congé parental d'un an pour m'occuper de Clémentine. Je voulais voir mon enfant grandir, et en fait, je voulais pas aller au travail fatigué, voir partir mon enfant assez rapidement, et je voulais bien le vivre, je voulais pas que l'enfant soit une contrainte. Et puis je suis super content parce qu'elle grandit, et ça a l'air de bien se passer, donc je fais à peu près bien mon boulot. Voilà.
Et votre femme?
Et ma femme est chercheuse à l'université.
La maman, elle avait pas forcément ce besoin-là?
Bah Julie, en fait, ouais, elle a peut-être un peu plus d'ambition, elle est plus carriériste que moi, et c'est peut-être ça qui a fait la différence, ouais.
Pour elle, s'arrêter un an, ça aurait mis en danger peut-être sa carrière?
Ouais, non, elle voulait pas et elle aurait pas pu, ouais. Ça, c'est son Pompon le renard, c'est son doudou préféré. Hop. Ah oui. Ça, c'est le cadeau de mamie avec la musique qu'elle aime bien aussi.
Et alors, donc, de quoi sont faites vos journées, alors?
Alors, les journées, on essaie de faire au moins une activité tous les jours, soit une promenade, soit on va dans un lieu accueil enfants-parents. On a une ludothèque aussi, au centre social culturel. Dans les médiathèques, le matin, il y a des contes. On fait bébé nageur le samedi matin. Voilà, on a beaucoup d'activités.
Ah bah si, ce soir, on a un spectacle à 17h. Un spectacle.
Comment vous vivez de passer la journée avec un bébé?
En fait, moi, je travaille dans la promotion immobilière. Je suis maître d'œuvre d'exécution sur les chantiers. Donc, ça me change complètement d'univers. J'ai été surpris, mais en regardant le bilan social de l'entreprise, j'ai remarqué que sur les 2500 salariés de mon entreprise, je ne sais pas si je dois le dire, c'est chez Nexity, j'étais le seul papa cette année à avoir pris son congé parental. Donc 2500, ça fait 1250 hommes. Voilà.
Oh, tu nous as fait un petit caca, Clémentine. Ben oui.
Hop là.
Comment ça a été pris par votre entourage, le fait que vous choisissiez de la garder?
Moi, je suis de province, je suis de la campagne. C'est pas chose courante, encore moins, que ici, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai eu mon grand-père qui m'a fait quelques remarques, qui m'a dit que c'était pas trop mon rôle de faire ça.
Et vous qui travaillez dans le secteur du bâtiment, on pourrait imaginer que c'est un secteur macho. Vis-à-vis des collègues, vous vous êtes pas fait chambrer?
Si. Un petit peu quand même. Voilà, à chaque fois il me voit, alors tu reviens, c'est ça, t'en as marre? Mais non.
C'est-à-dire que tout le monde a pensé que vous alliez vous décourager très vite, en fait, c'est ça?
Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est que le début, peut-être que ça arrivera, hein. Et, on sait pas ce qui peut se passer.
Allez, hey, voilà, on a terminé. On a terminé.
Tu fais pas entendre ton rire? Tu veux pas faire entendre ton rire? Oh, ton petit roux. Moi, je dirais que je suis un papa. Hein. Pas plus gaga qu'autre chose. J'essaie de prendre mes responsabilités de papa. Il y a des gens qui m'ont dit ça, par contre, ouais. Ils m'ont dit, ouais, ça m'étonne pas trop. On te voyait bien papa poule, quoi.
Vous l'avez dit de vous-même, vous vous sentez papa poule ou c'est les gens qui vous voient papa poule?
Ouais, juste le terme qui m'agace un petit peu, parce que la poule, enfin, c'est celle qui couve un peu. Et moi, je suis un homme, quand même. Donc peut-être papa coq. Mais le coq en même temps, c'est abrupt, mais ouais, je suis un papa. Je dirais que je suis un papa qui fait son job.
Tu veux qu'on chante une petite chanson? Tu veux? Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud.
Christine Castelin-Meunier, il est à fond, hein, ce nouveau père avec sa petite fille de 6 mois.
C'est super, Mimi. Et c'est très émouvant. Et moi, je trouve que c'est très, très important que des hommes s'expriment comme ça. Et puis qu'ils disent aussi que, papa poule, ça lui convient pas comme appellation. Qu'il y a un papa qui assume ses responsabilités, qui a fait ce choix-là. Et je trouve ça très intéressant de voir que des couples peuvent décider, à condition de bien communiquer entre eux, à condition que la femme ait un salaire aussi important quand même. Et c'est l'homme aussi qui a envie de s'impliquer dans la famille et qui a envie aussi parfois de prendre un petit peu de recul par rapport au travail. Et du coup, l'homme se transforme en un père très présent. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans des tas de témoignages que j'ai recueillis pour mon livre, c'est qu'il y a des hommes qui ont dit qu'ils le mettaient sur leur CV. Et ça, je trouve ça...
Le congé parental.
Ouais, qu'ils avaient pris un congé parental.
C'est très minoritaire, hein, il faut le dire encore aujourd'hui.
Ah mais oui, c'est très minoritaire, mais attention, c'est comme tout changement, hein, ça commence par du minoritaire.
C'est-à-dire que le congé parental n'est plus un trou dans le CV.
Voilà, exactement. Au contraire, ça peut devenir une richesse. Pourquoi? Parce que justement, on sort de cette idée que le masculin, c'est la capacité à faire une chose seulement et pas 36 000 choses à la fois parce que c'est une affaire de femme. Et là, justement, et il a tout à fait raison de dire que c'est un papa pas un papa poule, un papa impliqué, un papa présent, et qu'il sait en même temps s'adapter à une situation et s'occuper très bien d'un enfant avec toutes les ressources personnelles qu'il a lui-même, parce que c'est un homme.
Alors on est vraiment dans ce paradoxe à l'heure actuelle, où la science et le droit permettent, en tout cas en France, de concevoir un enfant sans père, et en même temps, vous le disiez, les pères semblent accorder plus d'importance au projet paternel, finalement.
Oui, alors pour moi, en fait, il n'y a pas de paradoxe, parce que je trouve que à l'échelle de l'histoire, on sort du patriarcat, parce que certes, il y a eu le mouvement des femmes collectif des années 1970, où les femmes ont acquis des droits civiques et sociaux, mais en même temps, et où là, l'autorité parentale a été partagée, mais en fait, la place de la mère était encore très 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 investie par ses responsabilités, la place de la femme par ses responsabilités de mère. Et ce dont je parle dans l'ouvrage aussi, c'est la façon dont on a véritablement éloigné l'homme de cette idée qu'il pouvait avoir un instinct paternel. Et l'histoire, et en reprenant un petit peu le fil de l'histoire, j'ai vu à quel point l'homme, c'était tout sauf quelqu'un qui était capable de s'intéresser, de communiquer, de comprendre les besoins d'un tout petit.
Donc sous-entendu, une paternité entravée par les femmes?
Moi, je dirais une paternité entravée par la société d'abord, et ensuite entravée par les femmes. Pourquoi ? Parce que du coup, on a surresponsabilisé les femmes et on a défini la maternité comme, même la psychanalyse, même la psychologie, comme une affaire qui ne concernait que la mère. Parce que le père était toujours sollicité comme un rôle d'accompagnant de la mère, et là où... Du coup, il n'avait pas sa place de manière entière à côté du tout petit. Et justement, avec tout ce qui se développe du côté des sciences cognitives, avec la compréhension de la façon dont le cerveau fonctionne, etc., on se rend compte à quel point l'environnement est fondamental pour l'enfant et à quel point ce qui fait ce lien avec les personnes qui l'entourent, mais c'est fondamental, et bien sûr que l'homme réagit, et il y a des tas d'études qui commencent à sortir là-dessus, et ça c'est passionnant, il est capable d'interagir avec le nourrisson, avec le nouveau-né, et il est capable de le regarder, de l'écouter, de babiller, etc., etc. Et ça, c'est fabuleux. Et là, on ouvre un pan du côté de la paternité qui est fabuleux et qui va, je pense, mieux accompagner la place du père, parce que la place du père n'est pas encore bien définie aujourd'hui.
Eh bien, on en parle de cette place du père, et bien sûr avec vos appels, vos témoignages, 7 milliards de voisins, je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous, dites-nous tout simplement quel père vous êtes ou quel père vous aimeriez être.
Jericho, oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's nobody like Joshua at the battle of Jericho. Oh, oh, oh. Joshua beat the battle of Jericho, oh, Jericho, oh, Jericho, oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Blip, 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 boom, boom, zin, da, do, ba, do, ba, do, ba, 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 Oh,
C'est l'inimitable Bobby McFerrin. On parle de la place du père aujourd'hui. L'instinct paternel, c'est le titre de votre ouvrage, Christine Castelin-Meunier. Plaidoyer en faveur des nouveaux pères. Ces nouveaux pères, il faut le redire, qui restent quand même minoritaires dans les sociétés. Alors, moins en Europe du Nord, mais il faut quand même redire que dans un pays comme la France, dans les cas de séparation, les hommes demandent encore assez peu la garde alternée. Néanmoins, beaucoup de pères, en tout cas, ont envie de se projeter dans une vraie fonction paternelle. La vie n'est pas toujours aussi simple et peut-être aussi que leur histoire ne le permet pas, mais en tout cas, ils ont tous envie d'en discuter. 33-1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone et puis c'est aussi le serveur WhatsApp. Allez, appelez-nous pour qu'on en discute où que vous soyez dans le monde.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
On donne la parole à Mohamed qui est à Dakar, ou Mohamed, pardon. Vous avez 30 ans, Mohamed, c'est bien ça?
Oui.
Et vous
bonjour
avez...
Emmanuel.
Bonjour à vous, soyez le bienvenu. Vous avez une petite fille de
Merci.
Presque 3 ans?
Oui.
Et un fils de 3 mois?
Oui.
Bon, vous êtes presque le plus heureux des pères.
Merci beaucoup.
Alors, comment vous vivez cette paternité?
Bon, je dirais que pour moi, c'est quelque chose de normal.
Oui.
Bon, de m'investir pour mes enfants. C'est vrai que pour ma fille, en fait, on a une relation un peu particulière.
Mm-hmm.
Parce que lorsqu'elle est née, j'étais en indisponibilité de travail pour un problème de santé.
Mm-hmm.
Cette indisponibilité a duré un an.
Mm-hmm.
Un an. Durant ces un an-là, donc, c'est juste après sa naissance que ça a commencé. Mmh. Donc, durant ces un an, j'étais quasiment celui qui s'occupait d'elle.
Oui.
Parce que je voulais ménager la maman, vu la charge de travail qu'elle avait.
Mmh.
Et voilà, les suites d'accouchement qui n'étaient pas simples pour elle.
Mmh.
Donc, je me suis dit, là, étant donné que je voulais une fille,
mmh.
donc celle-là, j'ai vraiment tout donné pour elle.
Mmh. Et pourquoi vous vouliez une fille, Mohamed?
Oh, bon, j'adore les femmes, en fait. Et je me dis que, voilà, j'ai toujours voulu une fille en premier enfant.
Mais vous êtes voilà, quand même dans, une, vous êtes dans une société où on valorise quand même beaucoup la naissance d'un garçon, on va pas se mentir.
Hein, oh, oui. J'en ai même eu une discussion un peu houleuse un jour
oui.
avec un ami qui me disait, en réalité, tu voulais un garçon, arrête de dire que tu voulais une fille. Je lui ai dit non. Non, si tu veux un garçon,
bon.
Mais moi, je voulais une fille.
En fait, ce n'est pas tellement notre sujet, mais ce qui est intéressant c'est dans ça, votre témoignage, c'est que pour raison de santé, vous vous êtes retrouvé dans la situation d'un père en congé parental, c'est-à-dire que pendant un an, vous avez vraiment été collé à votre
exactement.
Fille, et donc vous en êtes occupé énormément. Et aujourd'hui, quel père vous êtes, du coup?
Ben, aujourd'hui, je suis toujours le même, un papa poule. J'aime pas qu'on touche à ma fille. Bon, lorsqu'on la fait pleurer, ça m'énerve. Quand elle se plaint trop de sa maman, parce que sa maman a dit que je la gâte trop.
Mm-hmm.
Donc elle dit qu'elle est un peu plus intransigeante, elle va plus veiller à son éducation.
Mm-hmm.
Parce que vous savez, ici au Sénégal, on dit si l'éducation d'un enfant n'est pas réussie, c'est la faute de sa maman.
Oui.
Je lui ai dit non.
Il n'y a pas qu'au Sénégal qu'on dit ça, il y a tous les psychanalystes de la planète qui disent ça aussi.
Voilà,
oui,
voilà,
c'est toujours la faute de la mère.
C'est pas ta faute parce que nous sommes deux parents à faire ce bébé.
C'est ça, donc vous endossez vraiment une part de responsabilité. Mais comment vous êtes perçu par les autres, Mohamed?
Ils disent peut-être parfois... Je suis mal compris. Je reconnais que je suis mal compris. Parce qu'ils se disent que c'est un papa poule. Ce que je fais, peut-être, je ne devrais pas faire. C'est la maman qui devrait s'occuper autant de la petite. Par exemple, quand je change des couches ou bien quand je l'amène en vaccination, tout le monde me regarde.
Mm.
Les gens se disent, même pour mon fils, je l'ai amené la dernière fois en vaccination.
Votre fils qui n'a que 3 mois, je le précise.
Oui, voilà, qui n'a que 3 mois. Les gens me disaient, mais vous êtes exceptionnel. Où est la maman du petit? Pourquoi elle vous a laissé l'amener comme ça en vaccination? Pourquoi elle ne l'a pas amenée? Et quand je réponds, elle travaille, les gens me disent, non, attendez, elle travaille, vous la laissez travailler, vous l'amenez, vous ne travaillez pas?
Ouais.
Je dis non, c'est pas le fait que je ne travaille pas, c'est mon enfant, je décide de l'amener en vaccination, je décide de le suivre quand sa maman est occupée. C'est tout, on le fait à deux. Et quand c'est occupé, sa maman peut se libérer, elle le fait parce
c'est
qu'on
ça,
est à
exactement,
deux.
Ça s'appelle le partage des tâches. Merci beaucoup Mohamed de nous avoir appelé. Effectivement, on voit bien quand même, où qu'on soit dans le monde, il y a quand même aussi, quand le père prend beaucoup de place, Christine Castelin-Meunier, on se demande que fait la mère.
Oui, mais justement, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je dis, voilà, on va vers quelque chose de mieux à l'échelle de l'histoire. Parce que là, le fait qu'on renvoie à l'homme quand il s'occupe de l'enfant, ce serait mieux qu'il soit au travail et qu'il travaille et que ce soit la mère qui s'en occupe. Là, je pense qu'il y a toute une référence à l'idéal viril qui passe par l'impératif professionnel pour l'homme qui passe avant. Or, justement, du côté des jeunes générations, ce que je trouve très intéressant, c'est que les jeunes générations cherchent à combiner le moins mal possible le travail et la famille. Et comme la femme travaille aussi, on sent bien qu'on peut aller, et c'est ça que je trouve passionnant à l'échelle de l'histoire, on peut aller vers ce que j'appelle la démocratie de l'intime. Et dans les couples, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui est très intéressant parce que il n'y a plus cette question qui fait quoi, t'es un homme, t'es une femme, etc. Non, c'est on est proche de l'enfant et on essaye d'adapter les comportements de chacun, la redéfinition des places et des rôles de chacun, oui, en sortant de la tradition.
Ça ne veut pas dire que l'homme ne reste pas un homme dans le couple, bien
voilà,
évidemment.
Voilà, chacun reste un homme, une femme, voilà.
Ceci dit, il y a eu une étude il y a quelques années canadienne qui s'est intéressée à la façon dont les pères s'occupent de leurs enfants quand ils sont très jeunes. Hein. Quand justement, ils les sortent, ils leur donnent à manger, etc. Et je me souviens qu'il y avait des résultats assez étonnants, c'est que les hommes laissent plus leurs enfants marcher, courir, leur font faire plus d'activités physiques. Ils ont moins peur que les mamans, que leur enfant tombe ou prenne froid dans les pays où il fait froid. Bref, les enfants qui sont beaucoup élevés par des papas, on a l'impression qu'ils sont un peu moins dans un cocon ou pas, ou c'est du stéréotype.
Non, c'est vrai. C'est vrai que les papas les poussent plus dans ce sens-là, à prendre un peu, j'ai envie de dire, un petit peu des risques, de l'autonomie. C'est ça qui me frappe. Et ça, on peut dire que c'est très bien parce que, du coup, l'enfant se sent un peu plus libre et en même temps, il est capable donc de faire un peu plus de choix, de s'habiller un peu tout seul, etc. Et en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils prennent des tas d'initiatives, les papas, à condition qu'on les laisse faire, hein, et que la société aussi encourage dans ce sens-là, parce que la place des pères n'est pas bien définie dans la société actuelle. Et donc, ils prennent des initiatives surprenantes. Et notamment, par exemple, un petit qui n'arrive pas à s'endormir, eh ben, y a un papa, il met une bougie, et l'enfant, il se concentre sur la flamme, en fait, c'est quelque chose de très joli, et l'enfant s'endort plus facilement.
Vous avez vu ça?
Ah oui. Et ça, c'est des choses extraordinaires. Et par exemple, en cas de séparation, voilà, il y a des difficultés économiques, des choses comme ça, pour que le père aille voir ses enfants, si éventuellement ils sont un petit peu plus loin géographiquement et le père n'a pas beaucoup de revenus, eh ben, il va acheter une caravane d'occasion et la caravane va être devant le HLM. Et quand le papa arrive, eh ben, les enfants viennent dans la caravane, le papa aussi, et pour les vacances, tout le monde part dans la caravane. Et ça, c'est des initiatives qui sont très intéressantes parce que qui s'adaptent aux situations de chacun, chacune. Et du coup, l'important.
Il y a plein de façons d'être père.
Il y a 36 000 façons d'être père.
La vie qui vous entrave.
Exactement. Et ça, je trouve que c'est un message très positif qu'il s'agit vraiment de véhiculer et que j'essaie de diffuser dans mon livre.
Allez, on repart au standard. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quel père êtes-vous? Quel père aimeriez-vous être ou avez-vous été? Vous nous appelez. On prend l'appel de Jean qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Jean.
Bonjour Emmanuel.
Jean, alors on a entendu un jeune père, hein, d'enfant très jeune, de papa de bébé. Et vous Jean, vous êtes un papa de 7 enfants, vous êtes à la retraite je crois aujourd'hui.
Oui, je suis à la retraite.
Et alors vous avez le temps pour revoir un peu votre parcours de père, quel père vous avez été et quel père vous êtes encore aujourd'hui?
Non, mais je suis resté, je resterai toujours un père attentionné envers mes enfants, parce que c'est surtout les jeunes filles, je les aime tellement trop, et voilà, je suis resté un papa très attentionné, très attaché aux enfants.
Mais comment vous vous êtes occupé de vos enfants lorsqu'ils étaient jeunes? Est-ce que vous êtes occupé d'eux plutôt sur le plan des valeurs, de l'intellect, ou pour les jeux, ou comment vous avez participé à la vie de vos sept enfants, Jean?
Non, je me suis occupé de mes enfants pour leur intégration dans la société, dans la vie sociale. Je me suis occupé tranquillement de ces enfants-là parce que je vais leur laisser un patrimoine d'amour, un patrimoine de joie et de vivre en commun avec les autres.
Et vous-même, vous avez été un enfant aimé par votre père, Jean?
Ah, pas tellement, parce que moi, je suis un enfant divorcé, j'ai vécu avec ma mère, et bon, même mon père, après, a fini par m'aimer. J'ai vécu avec ma mère, qui a beaucoup pris soin de moi, et si bien que cette vie-là, je voulais la donner, cet amour que je m'en manque auprès de mon père, moi, je voulais la partager avec mes enfants, leur donner le moins de choses, tout ce qu'ils en ont besoin. Et surtout, les deux filles que j'ai sont les deux dernières filles, je vous dis, je les aime tellement, je les adore, et voilà.
Et les fils alors?
Ah les fils, non, j'aime beaucoup plus les filles parce que avec les filles vous avez un peu de tout. Elles sont un peu plus dociles, ils comprennent, alors que à un moment donné les garçons sont des petits vagabonds, ils rentrent dans des groupes, mais ils ont le même amour, hein, je les garde de la même manière.
Vous avez le sentiment qu'avec des filles vous êtes moins dans une relation obligée d'autorité, c'est ça finalement, Jean?
Ouais. Non, avec mes filles, il faut faire très attention parce que lorsqu'ils atteignent l'âge de la puberté, il faut les aider. Il faut les aider, il faut les accompagner pour qu'elles ne se perdent pas. Parce que sinon, ils tombent sur la vie. Ils auront deux éducations et l'éducation de la rue, elle est tellement plus forte que l'éducation de la maison. Donc, il faut les accompagner, il faut la tendresse, il faut leur donner une éducation. Surtout de traiter des choses qui sont, qu'on pense, tabous en Afrique, hein, la sexualité, le VIH, comment...
Ce sont des sujets que vous abordez en tant que père, par exemple.
Ah oui, en tant que père, j'aborde ça avec ma fille, parce que là même, tout dernièrement, c'est moi qui achète le stagiaire hygiénique de mes enfants. Ils viennent me dire que papa, il manque le stagiaire hygiénique, je donne l'argent, il dit voilà, c'est ça.
Eh bien, formidable. Merci de nous avoir appelé, Jean, un papa aussi gardien des dangers du monde extérieur, finalement, Christine Castelin-Meunier.
Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que y a cette opposition entre la rue, la maison, et aujourd'hui, tout ça est médiatisé aussi par Internet. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est la façon dont les pères peuvent communiquer aux enfants cette capacité à prendre du recul par rapport à Internet, cette capacité à construire une force psychique pour ne pas se laisser, entre guillemets, endoctriner, manipuler par Internet. Et ça, c'est très important aussi d'intégrer les nouvelles composantes dans la construction de l'éducation du père.
Vous parlez aussi de ces pères qui ont du mal à être pères, à prendre du plaisir, à s'occuper de leurs enfants, justement parce qu'eux-mêmes n'ont pas été aimés par leur propre père. Et on l'entend, hein, d'ailleurs, dans les témoignages d'aujourd'hui. On a beaucoup de pères qui ont eu des difficultés avec leur propre père et qui, alors là au contraire, ont pris leur rôle paternel très à cœur, mais l'histoire peut continuer de se répéter aussi, c'est ce qui se passe très souvent.
Oui, tout à fait. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup impressionnée, c'est à quel point il y a ce que j'appelle un tsunami identitaire quand l'homme devient père. Et je trouve qu'il faudrait en parler beaucoup plus. Parce que,
c'est-à-dire l'enfance qui refait surface, par exemple.
L'enfance qui refait surface. Et puis, on est dans une société où on redéfinit le masculin par rapport au féminin, etc. Et donc, il y a aussi parfois un sentiment de perte de repère par rapport à la virilité.
Alors justement, comment aujourd'hui les hommes se retrouvent à être pères et pas seulement un père qui juge, qui sanctionne? Parce que c'est ce qu'on attend des nouveaux pères, c'est qu'ils ne soient pas que des juges et des pères sanctions.
Exactement. Donc, il y a tout ce qu'on appelle cette éducation bienveillante, compréhensive, à savoir cette capacité à comprendre l'enfant. Et c'est ça que, qui me paraît formidable aujourd'hui, c'est que plus l'enfant, plus le père s'occupe de l'enfant petit, plus il va aussi apprendre à mieux connaître cet enfant dans toute sa dimension, y compris émotionnelle. Et alors qu'on va vers une société où on parlera beaucoup de l'intelligence émotionnelle, je trouve que c'est fabuleux si le père a cette capacité à comprendre un peu les émotions de l'enfant. Là où jusqu'à présent...
Ça éloigne le spectre du père violent, du père absent, du père indifférent.
Exactement, exactement. Là où c'est très important, parce que jusqu'à présent, la construction de la virilité allait à l'opposé de la compréhension des émotions. Et donc, si on va vers une société où les hommes peuvent sentir que leurs émotions sont respectées, ils vont aussi respecter celles des enfants.
On accueille une voisine au standard pour parler de son père au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Ndoya.
Bonjour Emmanuel.
Ndoya, vous êtes à Dakar, vous avez 27 ans, vous êtes ingénieur en biologie, vous êtes l'aînée de 5 filles.
Oui, c'est exactement, on est 5 filles. Bon, avant tout, je voulais juste remercier en fait ma maman. De nous avoir choisi un papa si formidable.
D'accord.
Oui, c'est vrai. Oui, avant tout, parce que mon papa, je vous dis, Emmanuel, jusqu'à mes 10 ans, c'est lui qui m'a donné mes bains.
C'est-à-dire?
Et ça, je pense, il m'a donné la douche.
Oui.
Et quand je disais ça à mes autres copines, ils me disaient, bon, c'est bizarre, mais je dis, moi, avec mon papa, toutes les choses que vous avez peur de dire à votre papa, moi je le dis à mon papa. En fait, je ne suis pas aussi proche que ça avec ma maman, mais je me sens plus bien, plus détendue avec mon papa. Je ne peux pas lui cacher. En fait, mon respect pour lui...
Et c'est pas si banal que ça, Ndoya, parce que dans les études, la majorité des adolescents, par exemple, disent quand même encore aujourd'hui qu'ils se confient davantage à leur mère. Hein. Et oui. Vous, c'est pas votre cas, même si vous avez de bonnes relations avec votre mère.
Oui, c'est pas la même chose. En fait, mon respect pour mon papa m'a mené à ne quasiment jamais lui mentir, en fait. Même si aujourd'hui, c'est un choix de ma vie, mon géographiquement éloigné de mon papounet. Mais c'est la seule personne à qui je pense quand j'ai une bonne nouvelle, quand j'ai des angoisses, quand j'ai des peurs. Parfois aussi, ça j'essaie d'équilibrer parce que je suis mariée depuis octobre passé. Donc, parfois, j'essaie d'équilibrer la relation que j'ai avec mon mari et celle que j'ai avec mon papa. Parce qu'à un moment donné, un jour, je me rappelle, j'ai appelé mon papa en lui disant que je vais appeler mon roi. Il me dit, mais c'est qui ton roi? Mais je lui dis, attends, mon papa, c'est mon roi. Toi, c'est mon petit prince. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Donc, juste pour dire qu'on a un papa vraiment formidable qui n'a ménagé aucun effort pour lui.
Donc,
pour
pas évident quand même pour votre mari. Hein. Mais juste en quelques mots, comment votre père a tissé ce lien avec vous et avec ses filles? Est-ce que vous sauriez l'expliquer avec le recul?
Ah oui, je pourrais l'expliquer. En fait, peut-être qu'il va écouter l'émission. Il s'appelle Bassi Rondir. Bon, en fait, mon papa, c'est quelqu'un, bon, je ne lui jette pas des fleurs, mais c'est quelqu'un, un homme exceptionnel. En fait, moi, quand j'entends, par exemple, l'établi dit que, par exemple, le prince Harry, il a épousé sa maman, moi, je dis que ça n'est pas, j'ai épousé mon père. En fait, il a toujours été là, donner les mots à la place qu'il faut. Par exemple, parfois, nous arrêter quand il fallait. Par exemple, parfois, nous donner de petites fessées en guillemets, mais quand il fallait nous booster. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon BFM, je voulais faire... Bon, lui, il m'a poussé à faire la série scientifique. Donc là, il a cru en moi. Il m'a dit, bon, faut foncer, tu as la capacité. Et ça m'a aidé jusqu'à maintenant. J'ai eu une confiance extrême en moi. Et ça, j'ai dit,
et c'est votre père qui vous a procuré cette grande confiance en vous, en vous-même et en la vie. Donc, merci beaucoup, Ndoya, de nous avoir appelés. On arrive bientôt au terme de cette émission, Christine Castelin-Meunier. Vous formulez des propositions dans votre livre pour que, justement, les pères prennent une vraie place dans leur paternité. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous dire les propositions les plus importantes, vraiment en quelques mots?
Voilà. Donc, c'est vrai que je trouve qu'il faut absolument mieux accompagner cette nouvelle place du père, qui est une paternité relationnelle, selon moi. Et donc, notamment, bien sûr, en allongeant le congé de paternité, bien sûr, en faisant une meilleure place au père au moment de l'accouchement, par exemple. Donc, je fais une dizaine de propositions, et notamment aussi en sollicitant et en rémunérant aussi plus tout le corps enseignant, masculin, féminin, bien sûr, et de manière à ce que le père, l'homme, interviennent dans le domaine de l'éducation, y compris de la toute petite enfance, pour que véritablement les enfants aient aussi dans leur éducation, à l'école, à la crèche, partout, la présence d'hommes. Parce qu'on va vers une société où justement les rôles, les places se redistribuent, et il faut absolument que la société accompagne beaucoup mieux ces places du père, et notamment en permettant aussi qu'il y ait une meilleure éducation des garçons dans le sens d'une éducation empathique et qui privilégie aussi ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Donc allons vers cette société à coup d'une dizaine de propositions que je fais pour encourager cette nouvelle norme de paternité qui est la paternité relationnelle.
Et bien voilà, ça sera le mot de la fin pour l'instinct paternel, hein, c'est le titre de votre livre, plaidoyer en faveur des nouveaux pères. Merci beaucoup d'être passé par le studio des 7 milliards de voisins. Merci aussi à tous les voisins et voisines qui se sont exprimés sur leur père ou le père qu'ils sont. Dans quelques instants, l'Afrique qui gagne, comme chaque lundi, l'Afrique qui est portée par des héros et des héroïnes qui font avancer le continent.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique qui gagne, portrait aujourd'hui de Mwala Muto, qui a 24 ans, entrepreneur zambien. Il a grandi dans l'ouest de la Zambie, au sein d'une famille de 12 enfants. Il voulait être avocat ou comptable, mais finalement il s'est lancé dans la production et la transformation de noix de cajou à très grande échelle. Qui a dit qu'on ne faisait pas confiance aux jeunes? Je crois qu'il faut vraiment écouter son histoire. Il l'a raconté au micro de Charlie Dupio.
The main thing that is grown is maize.
Ce qu'on cultive le plus en Zambie, c'est le maïs. Mais vous le savez, nous faisons face au réchauffement climatique et le maïs a besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Alors quand il y a une sécheresse ou même une saison des pluies trop faible, l'agriculture est affectée, la nourriture est moins abondante. Quand j'ai voulu me lancer dans l'industrie agroalimentaire, je me suis demandé vers quelle culture me tourner, laquelle serait résistante aux sécheresses et permettrait de développer l'économie de cette région de l'Ouest et même du pays en entier. Après une étude sur le terrain, je me suis rendu compte que la noix de cajou serait la culture la plus avantageuse. Car la région dont je parle, cette région de l'ouest de la Zambie, a des sols sableux qui ne donnent quasiment rien pour les cultures traditionnelles. Cette région produit beaucoup moins de maïs que le reste du pays, car le maïs a besoin d'un sol plutôt argileux. A contrario, la noix de cajou pousse très bien sur des sols sableux comme ceux de l'ouest. Et si on plante des anacardiers, les arbres de la noix de cajou, au tout début de la saison des pluies, avant même que la saison ne se termine, les plants sont déjà devenus solides. Pas besoin de les arroser pour qu'ils survivent jusqu'à la prochaine saison humide. C'est pour ça que je me suis lancé dans la production de noix de cajou. En 2015, j'ai lancé mon entreprise. Je me suis rendu dans mon village d'origine, dans l'ouest, et j'ai demandé un lopin de terre au chef du village. Il faut savoir que le Mozambique, le pays voisin, a une industrie de la noix de cajou très lucrative. Donc j'ai récupéré des graines du Mozambique pour les planter sur mon terrain. C'est une variété brésilienne, réputée pour sa qualité. Et en 2017, le gouvernement zambien a lancé ce qu'il a appelé le projet zambien d'infrastructure de l'anacarde. Un projet soutenu par la Banque africaine de développement, avec une enveloppe de près de 50 millions de dollars.
Pour cette région ou pour d'autres régions ?
Seulement pour cette région de l'Ouest, car la noix de cajou ne peut pas pousser ailleurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette industrie n'est pas nouvelle dans la région. La noix de cajou a été introduite dans les années 70 par des familles portugaises. D'abord, ils sont allés l'introduire en Angola, puis en Zambie. Et au début des années 80, le gouvernement zambien avait déjà investi énormément dans cette industrie. Nous avions une grande entreprise publique appelée Cajou de Zambie. Mais à la fin des années 90, la Zambie a connu une sévère crise économique. Et la plupart de nos entreprises publiques ont été privatisées. Ça a été le cas de cette grande entreprise de noix de cajou. Et malheureusement, les acheteurs l'ont mal gérée. L'entreprise a fait faillite. Voilà. Donc on a laissé les anacardiers vieillir sans être entretenus. Très vite, ces arbres sont morts. et personne n'en a planté de nouveau depuis. Donc moi, plus de 15 ans après, je me suis dit « Ok, je vais faire pousser 50 000 plants d'anacardier ». Et le ministère de l'Agriculture me les a tous rachetés pour les distribuer à des fermiers locaux, un peu comme une subvention pour les aider à se lancer dans la production. Ces fermiers travaillent avec moi. Et moi, l'argent que j'ai perçu en vendant tout ça, ça m'a permis d'acheter mon terrain actuel. Un grand terrain sur lequel je suis en train de lancer mon exploitation. Il fait 100 hectares. Et j'ai aussi acheté 15 hectares sur lequel je veux bâtir une usine de transformation. Notre objectif est simple, c'est de planter 1 million d'anacardiers d'ici 5 ans.
Quand vous dites 1 million c'est énorme, comment vous allez y arriver ?
Oui, c'est énorme, mais je ne vous dis pas qu'on va y parvenir cette année, on se donne 5 ans. Par exemple, cette année, j'en ai déjà planté 50 000.
Avec votre usine de transformation, combien de noix de cajou vous allez pouvoir transformer chaque année ?
On espère 5 000 à 10 000 tonnes de noix de cajou transformées par an, ce qui est important.
Et alors justement, où seront vendues toutes ces noix de cajou transformées ?
L'Inde et la Chine sont les principaux pays consommateurs de noix de cajou. Il existe une organisation qui s'appelle l'Alliance africaine pour les cajous. Cette organisation met en lien les transformateurs de cajou sur le continent africain pour que nous puissions viser des marchés en Asie et en Europe.
Et vous allez en vendre aussi en Zambie ? Est-ce qu'il y a un marché pour ça ?
Oui, il existe un marché en Zambie, mais nous comptons produire de grandes quantités, alors la Zambie ne nous suffira pas. Il nous faudra exporter si on veut tout écouler. Et là, on ne fait que commencer. On a déjà formé 100 femmes de la région à la culture de l'anacarde. Ce projet, si on atteint l'objectif d'un million d'arbres plantés, je sais qu'il pourra faire travailler au moins 5000 personnes. Et vous savez, la noix de cajou est un produit qui se vend cher sur le marché. Elle se vend même un peu plus cher que le cuivre, qui est l'une de nos principales ressources ici en Zambie. Pour moi, c'est aussi aller vers une diversification économique et ça amènera une vraie prospérité à notre pays.
Qu'est-ce que c'est pour vous, l'Afrique qui gagne ? Vous qui entreprenez dans la noix de cajou et sa transformation en Zambie.
Le défi que nous avons en Afrique, ce n'est pas de produire. L'Afrique produit déjà beaucoup de ressources. Nous sommes le deuxième continent pour la noix de cajou dans le monde, par exemple. Mais les trois quarts de ces noix de cajou, sous leur forme brute, sont exportées à des pays développés qui vont ensuite nous les revendre, transformées et plus chères, à un prix inaccessible pour les personnes qui travaillent à les produire, ces noix de cajou. Ça crée des inégalités. Alors pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est celle qui sera capable de produire, de transformer, de créer des emplois, d'être indépendante et de créer de la valeur.
Voilà, c'était l'entrepreneur zambien Mwala Moto, 24 ans. Et je voulais aussi vous signaler que l'Afrique qui gagne, qu'on entend chaque lundi, c'est aussi une série à retrouver en podcast sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez désormais écouter 20 portraits de l'Afrique qui gagne, des femmes, des hommes, souvent jeunes, du Sénégal à l'Éthiopie, en passant par le Mali ou le Nigeria. Ils sont entrepreneurs, influenceuses, artistes. Et ce sont des histoires à la fois ordinaires et exceptionnelles qui abordent tous les sujets du continent. Droits des femmes, électricité, emploi des jeunes, agriculture, cuisine, cinéma, éducation, mode. Leurs rêves, leurs solutions et leur inventivité sont des leçons universelles. Ne manquez pas cette série L'Afrique qui gagne, donc en podcast, à écouter, à commenter et à partager, surtout auprès des 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe aussi qui fabrique cette émission chaque jour. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Vous nous réécoutez aussi sur le site internet RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins, et sinon avec l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Et on se retrouve évidemment, comme chaque jour, sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous pour vos interventions quotidiennes aussi en direct dans l'émission. Et demain, on parlera du confiage des enfants. C'est une pratique courante, notamment en Afrique, qui consiste à placer son enfant chez un membre de la famille pour son éducation ou parce que le parent est dans l'incapacité de s'en occuper. Mais alors, quelles conséquences sur le développement de ces enfants qui grandissent loin de leur père et de leur mère ? Quelles difficultés aussi pour les familles qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs ? On en discute en toute franchise avec, comme toujours, notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. À demain, les voisins et les voisines.